De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, deux films israéliens, quelques films français et américains et un blind test, ainsi débute Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Avec trois films pour
tout
toi.
Tout à fait, trois films très différents. Alors je vais vous parler de Working Woman, donc un film israélien, du premier film de Jonah Hill, 90s, et d'une ressortie en salle, Camille Claudel avec Isabelle Adjani.
Et toi Manu?
Un film japonais, hein, Ne coupez pas, de Shinichiro Eda. Et Un tramway à Jérusalem, le nouveau film d'Amos Jitai.
Et puis moi, je vous parlerai bien du dernier documentaire de Frédéric Wiseman, grand documentariste américain dont je n'avais vu absolument aucun film. Et puis, eh bien, un autre vétéran, c'est André Téchiné avec L'adieu à la nuit. Et ce sera l'occasion de jouer à un blind test avec la filmographie d'André Téchiné, puisqu'il a fait 26 longs métrages. Il y a de quoi puiser largement. Plongé dans les années 90 avec un ado qui rencontre une bande de skateurs, mais ce n'est pas Larry Clark. Ainsi débute Cinérama.
Et maintenant
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et on commence donc avec 90s de Jonah Hill. Jonah Hill s'est pendant longtemps illustré dans des films appartenant à la nouvelle comédie américaine en tant qu'acteur. Comédie américaine bien calibrée, mais bon, pas toujours de bon goût, hein, tels que Supergrave, This Is The End, 21 Jump Street, 40 ans toujours puceau ou encore American Trip. Puis il a lentement opéré une transition vers des films plus sombres comme War Dogs ou le dernier Gus Van Sant. Mais comme à Hollywood, eh bien, lorsque vous êtes gros, hein, vous êtes forcément drôle, il a continué à incarner le sempiternel sidekick comique du héros. Il signe ici son premier film, très attendu, qu'il a écrit et réalisé, avec lequel peut-être, eh bien, il se délestera enfin de cette image de comique. Et bien qu'il assure qu'il n'est aucunement autobiographique, il évoque une époque et un milieu, celui des skateparks de Los Angeles, qu'il a bien connu.
Get the fuck out of the front of my store.
Fuck you!
Fuck you!
Yo, I'm out. Stay out of my fucking room, Stevie.
Stevie, 13 ans, vit entre une mère célibataire, un peu à la ramasse, mais présente, et un frère mal dans sa peau, interprété par Lucas Hedges, alors lui que l'on voit, mais alors absolument partout. En ce moment, c'est assez sidérant. Stevie donc va faire la rencontre d'une bande de skateurs plus âgés de son quartier, et à leur contact, découvrir les filles, l'alcool, la musique, et bien sûr donc le skate. Mid-90s, le titre original que l'on pourrait traduire par le milieu des années 90, a été rebaptisé plus simplement 90s pour le public français, parce que il ne faudrait pas trop les obliger à parler anglais. Et puis surtout, bien parce que les années 90, c'est toujours aussi vendeur. Et ici, la nostalgie fonctionne à plein régime. Jonah Hill allant jusqu'à filmer en 4 tiers ses scènes de bande, de skate, de soirées alcoolisées et d'engueulades de famille. Tout est empreint de tendresse et de réalisme, la mise en scène saisissant avec beaucoup de justesse les rapports complexes entre ces personnages qui grandissent et qui se découvrent. 90s est un petit bonbon vintage, pas pour autant dépourvu de noirceur, de malaise et de bizarrerie, hein, comme lors de ces scènes assez dures dans lesquelles le jeune héros se fait tabasser par son frère, ou encore celle assez dérangeante dans laquelle il se fait entreprendre par une jeune fille un peu plus âgée que lui, qui décide de lui faire vivre sa première fois. Heureusement ici on n'est pas chez Larry Clark, hein, malgré des comédiens plus vrais que nature, issus de castings sauvages, Jonah Hill ne tombe jamais dans le trash, il fait simplement le choix de la tendresse et du réalisme pour reconstituer ses 90s, et donc c'est plutôt réussi.
Tendresse et réalisme, c'est pas vraiment ça dont il va être question maintenant avec un film de mort-vivant japonais.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, succès sans précédent au box-office japonais pour cette petite production indépendante réalisée avec deux bouts de ficelle, Ne coupez pas fait partie de ces films conceptuels dont il est bien difficile d'évoquer sans gâcher la surprise. Enfin, je voulais faire la critique la plus courte du monde, c'est-à-dire m'arrêter là, en fait. Mais non, non, mais parce qu'en fait, c'est vachement difficile d'en parler, en fait, sans gâcher en fait le film lui-même. Alors, ce défi s'avère même impossible. Alors, un conseil, voilà, bouchez-vous les oreilles pendant 5 minutes si vous voulez rien savoir ou ne prêtez pas attention à ce que je vais dire, même si je vais essayer de faire de mon mieux afin de ne pas divulgâcher les effets de surprise. Mais sincèrement, c'est mission impossible. Alors le pitch de départ n'a rien de particulièrement original. Hein. Dans une usine désaffectée, le tournage d'un DTV horrifique bat son plein. Le réalisateur furieux s'en prend à ses acteurs qu'il considère comme mauvais devant le regard de techniciens blasés. Il a l'air d'être le seul à s'investir dans cet énième film de zombies fauchés. Alors, lors de la préparation d'une scène complexe, enfin, tout est relatif, hein, de véritables morts-vivants investissent le lieu, paraît-il maudit selon des vieilles légendes dont on se moque éperdument. Alors, à moins qu'il ne s'agisse encore d'autre chose, genre d'une mise en abîme avec un film dans le film, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si je dois continuer à parler de Ne coupez pas, en même temps, le titre indique à demi-mot le dispositif, je vais quand même dévoiler la petite surprise, parce que sinon je m'arrête là, en fait. Hein. En fait, au bout de 40 minutes, le film redistribue totalement les cartes et lance, on va dire, un autre film. Le réalisateur, Eda, essaie d'emblée de compenser le manque de moyens par un argument formel qui tourne rapidement au procédé un peu pénible. Alors, le film débute par un plan séquence de 40 minutes, sauf que la caméra tremblote, l'image délavée est affreuse, les effets spéciaux rudimentaires et les comédiens sont assez exécrables, et on ne sait pas très bien s'il s'agit d'une pochette sérieuse involontairement comique ou d'une parodie pas très drôle. Alors, difficile de pas trouver le résultat, on va dire, très cheap. Et à ce moment-là, on se dit que c'est mort, encore un navet de plus à se farcir. Sauf que, ben voilà, en fait, le générique défile et un autre film débute. On entend une voix qui dit « couper ». Et à ce moment-là, en fait, on a le tournage du film.
Et c'est pas du Gaspard Noé.
Et voilà. C'est pas du Gaspard Noé du tout. Alors voilà, on a le film dans le film. Alors, le style caméra à l'épaule foutraque laisse place d'un coup à une mise en scène classique, mettant en scène une galerie de personnages passionnés, se démenant pour boucler une série Z horrifique menée avec passion. Alors Ne coupez pas se transforme alors en hommage sincère au cinéma de genre, voire bis Z, tout ce que vous voulez, tourné dans des conditions drastiques, mais il manque au film, on va dire, une folie pour convaincre réellement. Hein. Et surtout, il se prend quelque peu les pieds dans son propre jeu en justifiant des choix visuels et narratifs très contestables. Le film de zombies montré au début, en fait, est tellement, on va dire, exécrable que même l'absence de moyens ne parvient pas à justifier l'absence de talent. C'est surtout que... Il ne s'agit pas du tout d'une parodie, juste, on va dire, une petite comédie dramatique, sympathique, une sorte de nuit américaine de Truffaut, potache, portée par de très bons comédiens, cela dit. Certaines séquences parviennent à arracher un sourire, d'autres nous rendent indulgents devant, on va dire, cet éloge du système D. Mais en définitif, à quoi assistons-nous, hein ? Rien de plus qu'un making-of, en fait, de fiction. Voilà, en fait. Je dirais que c'est un film très sympathique qui ressemble à un making-of. Mais le succès aidant, le film a déjà été racheté par les Américains qui sont en train de tourner un remake.
Eh bien, merci d'avoir tout de même dévoilé donc, cette intrigue. Et 26e long métrage d'André Téchiné, c'est le 8e avec Catherine Deneuve. On va parler de l'adieu à la nuit et on va faire notre blind test de l'émission.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
L'entrée dans l'âge adulte qui prend un visage terrifiant, c'est le menu de L'adieu à la nuit, nouveau film d'André Téchiné, cinéaste de son temps, qui s'empare d'un sujet qui est contemporain, la radicalisation religieuse. Alors pour traiter de ce sujet, il adopte le point de vue d'une génération qui est proche de la sienne avec le personnage de Catherine Deneuve. L'actrice qui a déjà fait 8 films donc avec Téchiné interprète Muriel, une grand-mère qui ne fait pas son âge, hein. Ça c'est Catherine Deneuve, et qui s'occupe d'un centre équestre et de cerisier au pied du Canigou dans les Pyrénées-Orientales, un coin paisible. Muriel est très contente de revoir son petit-fils Alex qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.
Tu devrais rester en France. Tu peux repasser ton concours. De toute façon, c'est un échec, c'est pas grave dans la vie. Faut pas abandonner.
Ah, mais je veux plus faire médecine.
Bah, médecine ou autre chose. En tout cas, il faut que tu saches que tu es chez toi ici. Il y aura toujours une place pour toi.
Alors, on le sent, c'est très bienveillant. Alors, si cette destination, bien que lointaine, est rassurante, Alex en vise une autre, belliqueuse, hein, celle-ci, c'est la Syrie. La grand-mère découvre au fil du séjour, et les spectateurs avec elle, bien qu'il est devenu musulman, qu'il s'est radicalisé et qu'il est bien décidé à quitter la France pour faire le djihad. Alors, dès lors, elle va tenter de ramener son petit-fils vers elle, lui qui n'a plus sa mère et qui refuse de voir son père, cherchant comment faire. Elle l'enferme, par exemple, bien dans l'écurie.
Qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas que tu partes.
De quoi tu parles ?
Mais tu mens, Alex, t'as toujours menti. Depuis que t'es petit, tu racontes des histoires, mais là, c'est pas pareil.
T'as fouillé dans mes affaires ?
Et toi, tu m'as volé. Mais tu croyais pas que la banque allait me prévenir ? Tu croyais pas que j'allais chercher à comprendre ? Et ben maintenant, ça y est, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul ? Tu vas passer la frontière ? C'est ça ?
Ouvre.
Non.
Ouvre.
Non.
Ouvre.
Va-t-elle ouvrir, vous le saurez. Non, il n'y a pas de suspense avec ça. Alors, si le réalisateur suit la détresse et les décisions que prend Muriel, confronté au choix mortifère de son petit-fils, eh bien, le récit suit également sur un même plan, cela sans juger, les préparatifs au départ d'Alex. Il part avec Lila, interprétée par Oulaya Amamra, qu'on a vu dans Divine. Si lui est tendu, fermé, elle est souriante, ouverte, mais semble aussi la plus résolue à adopter une nouvelle vie où son amoureux pourrait mourir au combat. Lors d'une discussion avec une fille qui est partie déjà en Syrie, eh bien, elle demande combien de maris ont les femmes là-bas. Pour elle, la mort n'est pas une mélancolie, c'est l'ascension à une vie céleste. Ce qui est intéressant dans L'Adieu à la nuit, c'est que pour construire son récit, André Téchiné s'appuie sur une somme documentaire issue du livre de David Thompson, Les Français djihadistes, qui est un recueil d'entretiens sans filtre de jeunes Français partis en Syrie faire le djihad. Le récit se fait donc précis quand il s'agit d'écouter ces jeunes. On y voit l'embrigadement et l'encadrement à quelques jours du départ, puisque le film, sans compter l'épilogue, se déroule sur 5 journées de printemps. Mais ce qui intéresse aussi le réalisateur, c'est la psychologie de ces jeunes qui ont décidé, peut-être également guidés par un élan romantique, d'aller risquer leur vie. Ainsi, deux mondes s'opposent, celui de la grand-mère, ancrée dans la terre, avec ses cerisiers et ses chevaux, et puis celui d'Alex et Lila, qui veulent brûler leur jeunesse dans la radicalisation. Un désir furieux de sacrifice qui a guidé Téchiné dans sa mise en scène, qui fait la part belle à l'excitation, à l'urgence et à l'idéal. Ces deux mondes sont mis en balance avec un troisième. Un personnage de repenti intervient dans ce récit qui se montre nerveux, un personnage qui intervient comme une figure rassurante. Il est le résultat d'un échec pour Alex, mais rassure le personnage de la grand-mère. Il prend tout son sens dans l'épilogue de ce long métrage qui se regarde avec plaisir. Téchiné ne juge pas, ne pose pas de questions, mais laisse entrevoir deux mondes qui ne peuvent plus se comprendre. Ce film, L'Adieu à la nuit, donc 26e long métrage, est en salle depuis le 24 avril. Et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test. J'espère que vous avez révisé votre Téchiné. On va écouter, alors soit on va l'écouter Catherine Deneuve, soit elle sera dans les films dont nous allons écouter un extrait tout de suite.
Si ça peut te soulager, balance-lui toi-même. Vas-y, dénonce-moi. Tu me reproches quoi exactement? D'avoir couché avec Manu?
Ce que t'as fait, ça n'a pas de nom.
Si, ça a un nom. J'ai réussi là où t'as échoué, c'est tout, c'est la vie.
Non, c'est pas la vie, c'est ta vie à toi, Mehdi. Une petite vie merdique avec un plan de réussite. Mais ça te conduit où, tout ça? À niquer tout le monde? Tu respectes rien. T'as épousé Sarah parce qu'elle vient d'un milieu friqué. Tu couches avec des mecs, mais tu craches sur les PD. Elle te sert qu'à ça, ta vie. À trahir ta femme, tes amis.
Moi, je fais respecter la loi, mais je donne des leçons à personne. Toi, t'as pas à me juger.
Alors, pour le coup, il n'y avait pas Catherine Deneuve dans celui-ci, c'est...
Les témoins, oui. Avec Michel Blanc.
Et Samy Bouajila, qui avait remporté le César du meilleur second rôle dans ce film. Alors là, c'est le gros bide d'André Téchiné.
Moi, c'est Franck, et vous?
Jeanne. Comment vous avez fait pour la valise? C'est de l'arnaque.
C'est de l'arnaque, vous exagérez, non?
C'est gonflé, quand même.
Ah, c'est vous qui m'avez donné du courage. Puis comme ça, vous pourrez partir en voyage?
Oui, en Italie. J'y vais chaque été pour les vacances.
Cet après-midi, on fait quoi?
Vous, je sais pas, mais moi, je suis pas libre.
Ce soir?
Non plus.
Bah quand, alors?
Écoutez, Franck, merci pour la resqui, mais pour le reste, c'est non.
Alors, ça a été trouvé.
La fille du RER.
Oui, on écoutait Nicolas Duvauchel et...
Émilie Dequesne.
Émilie Dequesne.
Tu voilà, parles et... de façon très étrange. Personne ne parle comme ça.
Et il y avait Catherine Deneuve dans ce film. Allez, un troisième extrait.
Je comprends pas. Je croyais que t'aimais pas les mecs.
Les mecs, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est du fric et tout de suite. Par ça ou autre chose. Putain, j'y arrive pas. Je suis bon à rien, même à ça, j'y arrive pas. Avec les femmes, il y a toujours des salades. Comme ça, au moins, avec les mecs, ça sera clair.
C'est ça. Pas de plaisir, pas de sentiment, rien que le fric.
Oui, c'est ça. Rien que le fric. Donnant, donnant, comme ça, je devrais rien à personne.
J'ai l'impression que t'as besoin de te changer les idées.
On écoutait bien le César du meilleur jeune espoir de 91, ça a été trouvé.
Oui, c'est Jean Braspa. D'ailleurs, Manuel Blanc a totalement disparu de la circulation.
C'est,
c'est un acteur qui a fait très peu de choses après.
C'est vrai, alors qu'il était convaincant. Allez, quatrième extrait, cette fois-ci, c'est grand succès mondial.
C'est vrai que vous êtes prof de philo?
Oui.
Ah, mais c'est super. Ça me paierait si vous me faites un cours sur un philo, là, si c'est possible.
Mais un cours de philo?
Non, parce qu'il y a Juliette qui vous adore, hein.
Je peux pas me lancer comme ça.
Vous savez, moi j'écoute, hein. Vous pouvez raconter ce que vous voulez.
Enfin, il faudrait trouver un sujet qui vous intéresse.
À part la thune, il n'y a rien qui m'intéresse.
Et ben dans toutes les philosophies, l'argent c'est très mal vu. Sauf dans la vie quotidienne,
ah,
parce qu'il en faut.
Ah, oui.
Et en politique aussi, l'argent c'est négatif. C'est le capital.
Vous savez que j'apprends des trucs avec vous.
Et ça va même plus loin.
Ah, pardon.
Ça concerne même la sexualité. L'argent est assimilé aux déchets. Et symboliquement, les psychanalystes disent que c'est de la merde.
C'est pas de la merde. Les mecs, ils sont givrés.
C'est ça que j'arrive pas à imaginer. C'est la représentation que vous avez de l'argent. Mm-hmm. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une magie de l'argent qui est liée à la clandestinité, au trafic. Enfin, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous, moi, je reconnais que là, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai volé un truc une fois.
Voilà, donc Catherine Deneuve en prof de philo, c'est...
C'est Les voleurs, oui. C'est un polar d'ailleurs. À l'époque, Téchiné avait dit qu'il s'était légèrement inspiré de la construction de Pulp Fiction.
Ah oui,
C'est curieux.
De 96. Allez, dernier extrait.
Tu viens ?
Arrête, Polo, ça va pas recommencer. Je vais pas coucher avec toi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on habite ensemble tous les deux.
Pour te voir baiser par d'autres mecs, hein? Non merci, mais pour qui tu me prends, Nina?
Je baiserai avec personne. Je te donne ma parole.
Juliette Binoche qui intègre la famille Téchiné, c'est...
Rendez-vous.
Prix de la mise en scène à Cannes en 85. Ainsi s'achève donc ce blind test. On précise juste que le plus gros succès français, c'est Ma saison préférée. C'est le seul film qui a dépassé le million de spectateurs en France. Mais sinon, André Téchiné quand même est plutôt populaire parce qu'il réunit en moyenne un peu plus de 400 000 spectateurs pour chaque film. C'est le premier film israélien de cette émission. Harcèlement sexuel au travail. Working Woman.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Orna trouve un emploi dans l'immobilier de luxe, un job qui arrive à point nommé pour faire vivre sa famille et ses enfants, pendant que son mari ouvre son propre restaurant qu'il peine un peu à faire fonctionner. Elle s'avère douée et son patron, avec qui elle s'entend très bien, ne cesse de la complimenter sur son travail. Puis assez rapidement, il lui conseille de venir en jupe, de se détacher les cheveux. Il lui offre une promotion mais exige d'elle qu'elle reste travailler tard avec lui le soir. Quand il tente de l'embrasser une première fois, malgré le fait qu'il soit marié également, Orna tombe dans la culpabilité et décide de ne rien dire à son entourage, persuadée d'avoir été trop avenante, pas assez professionnelle, de lui avoir laissé croire qu'il pouvait se permettre un rapprochement. Dès lors, l'emprise de son patron sur elle s'accroît jusqu'au point de non-retour. Le harcèlement sexuel au travail est ici dépeint de façon très intelligente, hein, démontrant bien que les remarques les plus anodines peuvent conduire ensuite à des actes graves. Manipulation, chantage, contrainte, tout est mis en scène avec beaucoup de précision et sans exagération, notamment grâce au jeu très sensible des deux comédiens, réalisé par Michal Aviat, qui est une femme, je le précise. Working Woman démontre l'universalité de cette problématique. Qu'importe le pays et la culture, tant qu'il y a des hommes qui commandent des femmes, il peut y avoir du harcèlement. La force et l'intérêt du film est de l'avoir bâti autour d'un personnage de femme banale, dans le sens où Orna n'est pas spécialement carriériste, elle n'est pas spécialement féministe non plus, encore moins militante. Et en même temps, cela rend la fin du film un petit peu frustrante. On aimerait que le personnage de femme bafouée se venge, que le film appelle à la justice. Et notamment à cause de l'affiche qui annonce le combat d'une femme contre le harcèlement. C'est un peu mensonger, hein. Le combat n'est pas le sujet du film, du tout. Le film fait plutôt le choix de détailler très précisément comment des comportements prédateurs se mettent en place insidieusement dans nos sociétés. Ça reste un film réussi, bien sûr. Voilà, à part... Pour moi, la fin qui est un petit peu frustrante.
Et ce film est en salle depuis le 17 avril. Maintenant, eh bien, c'est l'immersion dans une petite ville rurale des États-Unis pour prendre le pouls des électeurs de Trump avec Monrovia, Indiana.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
L'Américain Frédéric Wiseman a eu beau faire des documentaires depuis les années 60, eh bien je n'en ai vu aucun, pas même celui réalisé à l'Opéra de Paris et qui est, paraît-il, une réussite. Mais avec son dernier documentaire, le quasi nonagénaire, il a 89 ans, préfère regarder son pays. Il se pose pour cela eh bien, dans l'Amérique rurale, à Monrovia, une ville de l'Indiana, qui a une particularité. Eh bien là-bas, 76% des électeurs ont voté pour Donald Trump, contre 57,2% pour l'État et 47,5% pour l'ensemble des États-Unis. Là-bas, on ne trouve pas un grand brassage, puisque les habitants sont blancs américains, à 96,3% contre moins de 2/3 pour le pays. En revanche, eh bien, ils sont majoritairement protestants avec une forte proportion d'évangélistes. Une autre particularité, eh bien, c'est leur niveau de vie. Le revenu médian annuel par ménage affiche 67 000 dollars. Il est plus élevé que celui de l'État d'Indiana, mais aussi du pays. Donc voilà pour les chiffres. Pour bien nous aiguiller, Frédéric Wiseman, en quelques plans successifs de manière quasi syncopée, nous plonge dans la ruralité, à savoir un champ qu'on cultive, une ferme, un arbre qui trône dans un pré, un tracteur qui passe, et après seulement, eh bien, on voit la ville qu'il va arpenter. Pour faire connaissance avec les habitants, on passe par le barbier, le salon de coiffure pour dames, le bar, mais aussi l'armurerie, la loge des francs-maçons, une réunion des membres du Lions Club, une kermesse, la contournable église, mais aussi une vente invraisemblable d'engins agricoles. Alors comme il aime beaucoup les plans séquences, ça dure un petit moment, mais bon, c'est assez savoureux. Le réalisateur nous immerge également dans un conseil qui s'apparente à celui d'une communauté de communes, à moins que ce soit une sorte de conseil municipal restreint, ça j'ai pas bien compris. Mais les discussions en tout cas, eh bien, que le documentariste capte sont intéressantes. On y apprend qu'un projet immobilier prévoit la création d'un grand lotissement qui est loin d'avoir l'approbation de tout le monde. À Monrovia, Indiana, on n'ouvre pas forcément grand les bras. Une attitude qui résonne en quelque sorte avec le programme du président Trump qui ne voit pas l'arrivée des étrangers d'un très bon œil. La méthode de Wiseman, qu'on retrouve également chez un Depardon, eh bien, est de s'effacer devant son sujet et ses intervenants en ne sollicitant eh bien, aucun intervenant en direct. Pour avancer dans son propos, l'Américain use de plans séquences et d'un montage qui ne cessera jamais de nous amener de la terre agricole qui entoure cette ville aux hommes et femmes qui l'habitent. I wanted to ramble and always be free, but that was before I met you. Ça aurait été difficile d'imaginer un documentaire sur la ruralité américaine sans country music. Frédéric Wiseman prend son temps et il lui faut près de 2h30 hein, quand même pour balayer les moments clés d'une vie. On passe ainsi un petit moment au lycée, on assiste au préparatif d'un mariage et on est également témoin d'un enterrement avec un long passage sur le discours du pasteur qui ne cesse de nous rappeler que cette communauté eh bien, est attachée à Jésus. Une présence religieuse qui s'invite au conseil municipal hein, aussi où les élus ne délibèrent qu'après une bonne prière. La réalisation accentue cette vision en faisant des allers-retours incessants d'ailleurs entre la terre et le ciel qui ouvre et ferme ce récit documentaire. Il ressort de ce film le portrait d'une communauté qui ne regarde que ses propres intérêts, proche de la terre mais surtout proche de sa terre et qui voit avec méfiance l'arrivée d'une nouvelle population qui pourrait mettre à mal ses valeurs. Un témoignage qui résonne avec l'actualité du pays. Monrovia, Indiana, donc documentaire de Frédéric Wiseman en salle depuis le 24 avril, tout comme Un tramway à Jérusalem, ça c'est le dernier à Moche Jitaï.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie.
Jérusalem, à mesure qu'on la quitte, s'enfonce dans la verdure des oliviers. Je croyais la revoir encore et lui dire adieu. Et quand je me suis retourné, elle avait complètement disparu.
Bon, ne vous fiez pas à l'extrait, il ne s'agit pas d'un film français, hein, c'est le seul moment.
Mais il est bien avec Amalric quand même.
J'y reviendrai d'ailleurs sur ce passage. Depuis près de 15 ans, hein, le cinéma d'Amos Jitai a perdu quand même de son aura, de sa force. Hein, où est passé l'auteur, moi, de films formidables comme Kadosh ou Kedma. En tout cas, bah, ce n'est pas Un tramway à Jérusalem qui va me permettre de renouer avec un cinéaste bien installé dans son conformisme et sa petite virtuosité. Alors ce film choral, hein, très faible, cela dit, en termes d'écriture, hein, c'est souvent la force de ce sous-genre, hein, induisant souvent une construction complexe, relate, on va dire, une multitude de scénettes à Jérusalem se situant dans un tramway reliant plusieurs quartiers. Une succession de vignettes censées être drôles, émouvantes ou pertinentes se succèdent bah, dans une indifférence totale. La galerie cosmopolite de cet exercice de style artificiel tente de représenter, on va dire, diverses cultures et langues et surtout proposer une sorte de réflexion politique sur la situation entre Israël et la Palestine, sans prendre parti, donnant la parole à chacun, reprenant alors la célèbre phrase de Jean Renoir que le grand drame de notre époque est que tout le monde a ses raisons. Alors 36 comédiens investissent un tramway qui n'est jamais filmé pour ce qu'il est. Le film déserte les lieux, ne s'intéresse pas à la topographie, si ce n'est par des plans touristiques censés relier chaque petite histoire. Amos Jitai n'est pas un mauvais cinéaste, mais son dispositif formel agace d'entrée. Il braque sa caméra au plus près des personnages, les enfermant dans une bulle, refusant toute profondeur de champ. Donc il crée un dispositif théâtral désincarné dans lequel l'environnement n'a absolument aucune existence autre que métaphorique. Tous les arrière-plans sont ultra flou en fait. C'est assez curieux. On se demande vraiment pourquoi il filme finalement dans un tramway. Alors un tramway à Jérusalem, au-delà de l'aspect purement symbolique du trajet, aurait pu être filmé en fait voilà, n'importe où. Mais il fallait trouver un endroit pour enregistrer la parole d'êtres humains différents les uns des autres, hein, s'écharpant, se donnant la réplique. Alors les clichés abondent, hein, donc on entend Mathieu Amalric, hein, qui incarne le représentant, on va dire, de notre culture et lit donc à son fils, qui s'ennuie quand même, du Flaubert à haute voix, en l'occurrence son voyage à Jérusalem. Alors on a des couples qui se déchirent, un vigile qui contrôle par délit de faciès une palestinienne qui a un passeport passeport hollandais. Une mère juive se plaint que son fils n'ait pas d'enfant et qui vit avec une goye. Un rappeur dénonce la politique israélienne dans un mini-clip. Une femme fait l'éloge de l'armée locale. Voilà. Ce patchwork indigeste dont on cherche vainement le sens est interrompu par des repères temporels inutiles, à peine dignes d'une mauvaise série B. Alors de ce film à sketch assez vaniteux et creux ne ressort qu'une séquence, la première, vraiment drôle, où sur un Israélien volubile qui vante les mérites d'une équipe de foot, coupant systématiquement la parole à l'entraîneur interviewé par une journaliste. Et puis aussi la très belle musique du clarinettiste et saxophoniste français Louis Clavis, qui apporte un peu de, je dirais, d'exotisme, de voyage, un peu un film quand même pas très, très bon.
C'est un peu maigre. C'est une heureuse que la
mais
musique.
Mais bon, voilà, moi je me suis rattaché à la musique.
Eh bien, merci. Alors, on va passer maintenant aux films qui auraient pu être oubliés, mais qui ne le sont pas tout à fait, et surtout pas celui-ci. D'abord, chef opérateur Bruno Nuitten a mis à l'écran Depardieu Adjani pour Camille Claudel, qui ressort sur les écrans, et Marine nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Camille Claudel, initialement sorti en salle en 88, donc ressort le 17 avril en version restaurée, film aux 5 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani et celui du meilleur film. Il raconte un destin de femme brisée dont l'œuvre artistique sera minimisée au profit de ses pairs masculins et qui sera allègrement maltraitée par son célèbre amant Auguste Rodin. Premier film donc de Bruno Nuitten, Camille Claudel n'est pas un biopic exhaustif de la vie de celle qui est désormais considérée comme l'une des plus grandes sculptrices françaises, mais un film qui se concentre sur la rencontre et la relation entre Camille Claudel, jeune artiste passionnée dans le Paris de la fin du 19e siècle, et Rodin, qui était lui, pour le coup, déjà un artiste reconnu. Elle devient son élève et sa muse, mais malgré son talent, elle peine à sortir de son ombre et s'abîme dans une relation amoureuse peu épanouissante qui la réduit à un rôle de maîtresse.
C'est saisissant, hein. C'est de l'alchimie, c'est de la féerie.
Jamais vu un autoportrait comme celui-là.
On s'attend presque à le trouver chaud.
Quel regard cruel sur vous-même.
Il s'agit que de voir, messieurs. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Tous mes élèves ont voulu faire des bustes de moi. C'est le plus beau jamais réalisé. Je le montrerai partout. Vous vous rendez compte? De mémoire. Elle l'a fait de mémoire.
Vous voulez dire que c'est elle qui l'a fait en votre absence?
Mademoiselle Claudel est désormais un maître.
Elle a le talent d'un homme qu'on aurait beaucoup. C'est une sorcière.
Camille, c'est magnifique, c'est complètement prémonitoire. Tu m'as fait la tête que j'aurai dans 10 ans, je le sais. C'est magnifique. Il s'est passé quelque chose. C'est ta tête des mauvais jours. Où étais-tu, mon ami?
Choisis, Rodin. Ta femme ou moi?
Rose n'est pas ma femme. Qu'est-ce qui te prend? T'es jalouse d'une vieille affection? Toi et moi, c'est pas pareil. Nous sommes deux révoltes de la nature. Nous sommes de la même race.
Tu rêves, Rodin. Tu crois vivre une idylle dans un château? 5 de fantômes dans un terrain vague.
Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Ce que je veux avec toi, c'est la paix. L'oubli, le travail.
Tu veux la quitter?
Comme souvent dans les biopics, et surtout les biopics d'époque, eh bien, celui-ci souffre d'un défaut un peu dérangeant à mon sens, mais mineur. Les scènes se succèdent avec une grande rapidité, ne laissent jamais s'installer les dialogues, l'action ou même la lenteur, en cherchant ainsi à résumer une existence à travers une succession de petites scénettes. Néanmoins, le film a une photographie extrêmement belle, il fait un usage assez admirable de la lumière et il est surtout l'une des nombreuses preuves du talent incommensurable d'Isabelle Adjani, à l'époque à l'apogée de sa cinéma. Génie est totalement incandescent dans le rôle de Camille Claudel. Il ne faut pas moins que les 3 heures que dure le film pour appréhender toute l'étendue de son jeu, qu'on a souvent un peu trop tendance à réduire, c'est vrai, à des rôles de femmes névrosées ou carrément folles. Face à un Gérard Depardieu, lui aussi habité, mais qui semble presque effacé dans le rôle de Rodin en comparaison, Adjani illumine le film de bout en bout et donne chair à cette Camille Claudel au point de la ressusciter totalement dans la mémoire commune. Ces 3 heures, c'est à voir, mais si vous avez le temps, on va dire.
Alors, sachant que c'est une version restaurée, effectivement, qui va sortir dans certains cinémas, mais évidemment, loin de sortir dans tous les cinémas français. Mais vous avez évidemment la possibilité de voir ce film en VOD et en DVD.
C'est fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible!
Si, je vous assure!
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp!
La semaine prochaine, nous retrouverons à nouveau un blind test dans l'émission Cinérama. Ce sera cette fois-ci un réalisateur, mais aussi acteur, puisque ce sera Guillaume Canet. Et on aura l'occasion de parler des petits mouchoirs de Nous vieillirons ensemble.